chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette émission et bienvenue à Émilie Jousset. Bonjour madame.
Tous.
Vous êtes en lien avec nous par une liaison Zoom. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. C'est parfait. Alors,
Émilie Jousset, vous êtes présidente d'un cabinet d'expertise immobilière, Tolmen, et présidente du pôle Unis Île-de-France, qui est le syndicat des professionnels de l'immobilier. Et ça fait maintenant plus d'un an, puisque vous êtes présidente de ce syndicat professionnel depuis janvier 2020. Depuis la fin de vos études, il y a 17 ans, je crois, vous travaillez dans le secteur immobilier, ce qui fait de vous une personne assez experte dans le domaine. Alors, on le sait tous, le Covid a affecté le secteur de la construction à la location et à la gestion. On voit d'ailleurs beaucoup d'articles qui paraissent dans les journaux sur les changements de comportement des Français avec la pandémie. On en dira un mot. Mais dans le même temps, les mesures de lutte contre le changement climatique avec la loi climat en cours risquent d'affecter l'offre de logements. Et le mérite de l'UNIS, votre syndicat, est d'attirer l'attention sur cette situation. Vous allez nous en parler. Alors, Émilie Jousset, qu'est-ce que c'est que l'UNIS d'abord, pour que les auditeurs sachent bien de quoi vous parlez ?
Oui, effectivement, je vais me présenter. Alors, l'UNIS, c'est le syndicat des professions de l'immobilier. Donc, c'est un syndicat patronal qui regroupe, au niveau de l'Île-de-France et du Grand Paris, 700 adhérents, 700 sociétés. On est le premier syndicat des administrateurs de biens, donc les syndics de copropriété et les gestionnaires de biens immobiliers, et le premier syndicat des promoteurs rénovateurs. On a aussi des agents immobiliers et des mandataires immobiliers. Donc en fait, le syndicat regroupe toutes les professions qui vont de la construction jusqu'à l'entretien, location, transaction. Donc on peut avoir une vision globale sur le logement et l'immobilier francilien en particulier.
Alors j'ai lu sur le site internet de l'UNIS France que votre syndicat proposait une démarche pédagogique pour une éducation civique relative au logement. Alors c'est un angle de vue très intéressant parce que vous travaillez avec les propriétaires, avec les locataires et vous voulez avoir ce que je trouve souvent assez rare dans le domaine de l'immobilier, une vue d'ensemble.
Exactement, parce qu'en fait on se rend compte que nos métiers c'est un rôle de chef d'orchestre entre locataires, propriétaires, copropriétaires, partenaires, donc toutes les sociétés qui interviennent pour l'entretien dans les appartements et les immeubles et commerces. Et ce rôle de chef d'orchestre sur les thématiques tant juridiques, comptables, administratives et techniques, elle se fait en fait en commun avec tous ces intervenants sur ces immeubles. Et donc, on considère que nos professions sont un carrefour d'intervention qui fait qu'on a un rôle civique puisqu'on a un rôle de régulateur et d'information auprès de toutes ces personnes. Et c'est pour ça que le sujet de la rénovation énergétique est si important, c'est parce que nos adhérents vont se retrouver au cœur de ces problématiques et techniquement appliquer les nouvelles législations. Donc c'est pour ça qu'on sait de fait comment ça va se passer et ce qu'il est bon d'améliorer ou de ne pas oublier.
Alors on va en parler, Émilie Jousset, mais avant, comment s'est passée cette période, ça fait maintenant plus d'un an, pour les entreprises que vous représentez? On sait que pour la construction, après un premier confinement, ça a repris. Mais dans les agences, est-ce que on a pu visiter normalement les immeubles, les appartements alloués, etc.?
Effectivement, il y a eu plusieurs phases depuis un an. Le premier confinement, comme tout le monde, la première semaine a été une semaine de sidération et d'organisation technique des accès pour que nos collaborateurs puissent travailler, ordinateur, téléphone, imprimante, etc. Et donc, cette digitalisation forcée, tant du côté de nos clients que de nos collaborateurs et de nos cabinets, nos sociétés, elle s'est faite assez vite, puisque on était plutôt bien organisés. Et puis, en fait, passé ce temps-là, la communication a commencé à bien se faire, à s'organiser. Donc, évidemment, toutes les visites étaient bloquées comme tous les chantiers, mais il restait quand même des sociétés d'urgence qui devaient intervenir, un ascenseur en panne, une fuite, juste l'urgence. La première chose qu'on a faite, c'est aussi de s'occuper de nos salariés, c'est-à-dire nos gardiens d'immeubles. Faut pas les oublier parce qu'ils ont été déterminants dans l'organisation de cette crise. Et puis après, on a pu reprendre les visites, donc on a pu reprendre les chantiers, donc ça s'est fait petit à petit. On a eu une bonne période jusqu'en octobre et par contre, au deuxième confinement, là, nouvel arrêt des visites et alors là, ça a été très compliqué parce que tout a été reparti. Donc on a eu un mois de blocage qui ont été assez préjudiciables. Mais finalement, voilà, on a mis en place des protocoles sanitaires avec les équipes gouvernementales et depuis, voilà, les visites se font dans des conditions normales d'exercice de nos métiers. Le seul point qui reste en suspens, c'est les assemblées générales de copropriétaires. Et ça, voilà, ça reste difficile pour les copropriétaires de ne pas se réunir pour débattre. Parce qu'on a des sujets importants qui arrivent et justement, on se rend compte que le débat en présentiel est important.
Alors, un mot pour rappeler aux auditeurs, l'ensemble de la filière immobilière, c'est quelque chose de très important en France, depuis la construction jusqu'aux services que dont vous représentez les métiers. Ça représente 6% du PIB français, beaucoup d'emplois, et c'est extrêmement important pour la reprise. Juste une autre question, comment se sont comportés? Est-ce que justement les Français ont annulé leur l'envie de vendre ou de changer ou de déménager ou au contraire, est-ce que ça a accru cette envie?
Alors, au niveau de toute la filière, pour revenir sur votre introduction à cette question, c'est aujourd'hui entre le bâtiment, l'immobilier et toute la chaîne, depuis la construction jusqu'à la transaction, donc avec tout l'entretien, c'est 50 000 entreprises en France. Donc en fait, c'est énorme avec l'impact que ça a sur les emplois. Effectivement, aujourd'hui, on peut dire que l'impact sur... la mise en forme, on va dire, voilà, de ces mises en location et du logement, elle est compliquée, elle reste tendue. On a à Paris, voilà, des délais de commercialisation qui augmentent. Les gens, en fait, hésitent aujourd'hui à bouger. Alors, en un an, les chiffres ont été stables puisque de confinement, on va dire, de date à date, fin du premier confinement à aujourd'hui. On va dire au premier trimestre, puisque là on est déjà au mois de mai, les chiffres sont stables, il y a eu quasiment le même nombre de transactions, voilà, une baisse vraiment minime, mais on observe là depuis 3 mois des rallongements énormes de délais de transaction, tant location qu'en transaction, et les gens qui, je pense, voulaient changer de vie ou déménager avant le confinement l'ont fait, et là on se retrouve dans une période où les gens sont attendent en fait une période voilà de transition. Donc nous, on n'annonce pas vraiment une crise catastrophique, mais voilà, on est prudent, on est objectif et on dit attention. Cette crise, elle va de toute façon entraîner une crise économique. Il faut pas se voiler la face. Il va y avoir des liquidations, il va y avoir du chômage parce que tous ces gens qui n'ont pas pu travailler pendant un an, ben ça a des impacts. Et qui dit un impact sur l'emploi, dit un impact sur le logement. C'est directement lié.
Absolument.
Donc, on est assez prudent sur l'avenir de notre secteur.
J'ai lu aussi qu'un des signes du ralentissement du marché immobilier parisien était qu'il y avait une montée des impayés de charges de copropriétaires.
Oui, effectivement, on a une petite augmentation en un an, 6% d'augmentation sur les charges de copropriété, donc d'impayés. Alors, on va dire 6%, c'est pas dramatique, mais c'est un signe que voilà, il va falloir après on joue notre rôle hein, de recouvrement de charges évidemment et de suivi, de mise en place d'échéanciers, etc. Mais voilà, il faut être vigilant parce qu'il faudrait pas que ce pourcentage augmente. Et du coup, il faut aussi prendre conscience que il y a déjà en fait des gens dans nos immeubles qui ont des problèmes financiers. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas eu toutes les aides qui ont été prévues par l'État, parce que tout le monde n'est pas concerné. Oui. Mais il n'empêche que certains ont quand même des difficultés.
Oui, absolument. On a vu le cas des étudiants et puis il y a tout le secteur de la restauration où les gens, parfois avec le chômage partiel, ne recevaient pas l'intégralité de leur salaire. Et on va parler maintenant, Émilie Jousset, de ce qui préoccupe beaucoup avec la loi climat qui est en cours d'étude au Parlement et qui doit... l'objectif de la loi climat est de lutter contre le changement climatique, mais il y en a un point qui vous concerne particulièrement, c'est la rénovation et l'adaptation aux nouvelles normes énergétiques. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que prévoit cette loi ?
Oui, effectivement. Cette loi, elle prévoit d'abord un nouveau diagnostic de performance énergétique qui est applicable là dès le 1er juillet sous forme des décrets du 13 avril dernier.
Dans deux mois, quoi.
Ouais, dans deux mois, mais c'est demain, hein,
oui,
en fait.
Oui, oui, c'est passé.
Ce nouveau, décret qui change en fait le mode de calcul de la performance énergétique des appartements, il va du coup donner dès 1er juillet une nouvelle classification de A, B, C, D, E, F, G. Et cette nouvelle classification
en fonction
va devenir opposable.
Oui, c'est une classification en fonction de quoi ?
En fonction de l'isolation de l'appartement, puisqu'on calcule la consommation énergétique de l'appartement ou de l'immeuble, c'est-à-dire les gaz à effet de serre et les émissions de CO2. Donc, cette nouvelle classification, elle va permettre de classer les logements différemment d'actuellement. Et surtout, elle va, la loi climat, du coup, qui va compléter ces décrets, demande à ce que ces logements G soit rénové de façon à ne plus être en G, donc à passer soit en F, en E ou en D, à partir, pour l'instant, de 2025. Et puis après que il y aura plus de G, et après, donc, les F passent en E ou en D, ou plus mieux, si c'est possible.
Une montée en gamme.
En 2028, exactement, et qu'il n'y ait plus de E en 2034. Donc, tous ces logements, F, G, E, aujourd'hui, c'est à peu près un quart des logements disponibles dans le parc actuel de logements français. Donc, alors, vous allez me dire, on a le temps, 2034. Oui, on a le temps de s'organiser. Mais pour ceux qui sont G, c'est demain, hein, 2025. Oui. Donc, on est en train de préparer nos clients, donc locataires, copropriétaires et propriétaires, à faire ces nouveaux diagnostics déjà à partir du 1er juillet, à faire des appels d'offres du coup sur les travaux qu'il va falloir faire, et puis ensuite à soit les voter, soit les valider, mais surtout à les faire financer. Et là-dessus, la loi prévoit un accompagnement pris en charge, que nos horaires d'accompagnement soient pris en charge par l'ANA et les subventions, et ensuite qu'il y ait entre 30 et 70% de subventions selon la situation financière des propriétaires.
Alors,
mais il restera un reste à charge, je finis juste, il va rester un reste à charge aux copropriétaires ou aux propriétaires bailleurs, et celui-là, par conséquent, il va falloir le faire financer si le propriétaire voilà, ne dispose pas de cette somme. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qu'on est en train de monter avec nos partenaires bancaires.
Oui, c'est tout à fait intéressant parce qu'on s'aperçoit que ça risque, si les travaux ne sont pas faits à temps, de peser sur le marché de l'immobilier et de soustraire un certain nombre de logements, d'être proposés à la location. Et on sait que ça ne serait que 10, je crois que vous allez jusqu'à citer, enfin la possibilité serait que 25% des logements, s'ils ne sont pas rénovés à temps, pourraient être retirés de la mise sur le marché. Mais même si ça n'était que 10%, c'est très embêtant pour les gens qui cherchent des logements. Alors, j'ai plusieurs questions. Moi-même, je suis locataire, je suis totalement incapable de vous dire dans quelle catégorie est classé mon appartement, on ne m'en a jamais parlé.
Alors, ça dépend depuis quand vous êtes locataire.
Oui, depuis très longtemps.
Normalement, voilà, normalement, vous devriez avoir un diagnostic de performance énergétique depuis quelques années. Mais effectivement, si on est locataire depuis très longtemps, on l'a pas forcément. Mais n'importe qui peut le faire. Hein. C'est un diagnostic qui coûte moins d'une centaine d'euros. Alors, vous allez me dire, c'est toujours un coût. Mais si on est locataire et qu'on veut savoir et qu'on n'a pas de DPE ou que notre DPE est trop ancien, ou alors que de toute façon, il faut le refaire, j'ai envie de dire, parce que au 1er juillet, il change. Donc, de toute façon, il faut le refaire. Donc, on peut appeler son propriétaire, partager les frais si on est déjà... Ou, voilà, vouloir investir cette somme d'argent pour le faire. Mais une fois qu'on a ce diagnostic, il faut bien se dire que l'État ou le gouvernement a voulu cette loi dans une démarche écologique, voilà, pour arriver à respecter les accords de Paris. Donc, ils ont mis en place tout un système. Alors, évidemment, nous, on est inquiets sur le volume, en fait, parce que dans les discussions avec le gouvernement qu'on a eues avant la signature de la loi, on parlait juste des appartements F et G. Et là, c'est vrai qu'il y avait un consensus sur ces appartements-là et les délais proposés par la loi pour les remettre en état. Rajouter les E, ben c'est une volonté parlementaire, donc voilà, on la salue. Hein, on est tous, voilà, on a tous envie que nos logements consomment moins et faire un geste pour la planète. Mais on se dit nous, attention, financièrement c'est un coût. 2034, ça nous paraît loin, mais c'est pas si loin que ça quand on réfléchit au délai de prise de décision. Et surtout, ça va avoir un impact immédiat. C'est-à-dire qu'on se dit, oh, mais on a le temps. Mais en fait, non, on n'a pas le temps. Parce que si demain, vous voulez louer votre appartement et qu'il n'est pas dans la bonne classe du DPE, bah, vous ne pouvez plus le louer. Ouais. Si vous voulez le vendre, c'est pareil. Il va perdre de la valeur puisque, évidemment, l'acheteur va dire, bah, il n'est pas aux normes du DPE actuel. J'ai X milliers d'euros à faire pour le rendre aux normes. Donc, j'achète votre appartement, déduction faite de ce montant des travaux. Donc, en fait, cette idée de valorisation des biens immobiliers, c'est la seule solution pour convaincre nos clients de faire ces travaux. Mais il faut qu'en face, on puisse leur proposer toutes les possibilités de financement de ces travaux.
Émilie Jousset, je vous propose une petite pause musicale. On vous retrouve tout de suite après Benabar.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit. Et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques. C'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits-enfants espérés apparaissent. Dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse. C'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors. C'est pas nos petits cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise. Quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez. Je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
Nous sommes toujours sur Fréquence Protestante en compagnie d'Émilie Jousset, qui est présidente du pôle UNIS France d'Île-de-France, qui est le syndicat des professionnels de l'immobilier. Émilie Jousset, vous nous parliez de ce qui est devant nous, la rénovation et l'adaptation aux normes énergétiques des logements à Paris, en Île-de-France et dans toute la France. Mais il y a d'autres questions que vous soulevez en ce moment. Par exemple, l'avenir des commerces. Que pouvez-vous nous dire sur l'avenir des commerces à Paris et en Île-de-France ?
Oui, effectivement, on a parlé au début de l'impact de cette crise et sur les métiers de l'immobilier et la gestion qu'on a des biens de nos clients. Aujourd'hui, on se rend compte, en se baladant dans Paris, qu'il y a beaucoup de commerces qui sont vides alors qu'ils n'ont pas forcément une interdiction administrative d'exercer, ou bien qu'il y a des panneaux qui montrent que même s'ils sont fermés, ils ne vont pas réouvrir. Et donc, du coup, forcément, ça nous questionne, ça nous fait réfléchir et on se dit, à l'issue de la reprise complète de nos activités respectives et de ce déconfinement programmé, et de la fin des aides financières de l'État qui vont avoir lieu un jour. Voilà. Il va y avoir une reprise économique qui sera peut-être très disparate d'un endroit à l'autre de l'Île-de-France, oui. Et ça va avoir un impact sur la fermeture de nos commerces.
On pense qu'il y aura plusieurs faillites.
Exactement. Sait pas encore le nombre. Mais... on sait qu'aujourd'hui le nombre de liquidations est moins élevé que l'année dernière, mais parce que les entreprises sont sous perfusion d'aides de l'État. Donc, on sait très bien qu'il va y avoir un rattrapage, et les juges du tribunal de commerce disent qu'aujourd'hui, quand il y a un dossier, il part directement en liquidation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de période de sauvegarde pour essayer de sauver l'entreprise. Par conséquent, ce qu'on aime tous à Paris, en région parisienne et même dans nos villes de province, c'est la commercialité, la vitalité des commerces de nos rues et de nos quartiers. Et par conséquent, si on se dit que tous ces commerces ferment et que c'est l'essor de l'e-commerce à 100%, on va se retrouver avec des immeubles avec des batteries de boîtes aux lettres de livraison de colis. Et ça tue un peu le côté sympathique, même si c'est nécessaire qu'il y ait des points relais colis, mais ça tue un peu le côté sympathique de la diversité des commerces d'une rue. Donc, ce qu'on se disait, c'était qu'à Paris, il y a des classifications des locaux commerciaux et de bureaux. Et par conséquent, on voulait attirer nos gouvernants sur ce changement qu'il était possible de faire de ces catégories de façon à ce qu'on puisse louer un local commercial avec un bail commercial à une profession qui n'est pas commerciale, à toutes les professions libérales, etc. Et du coup, alors si cerise sur le gâteau, ça libère des logements et des bureaux en étage, tant mieux. Mais du coup, voilà, c'était l'idée de revivifier ce territoire et voilà, c'était une mesure simple qui n'était pas très compliquée, qui coûtait rien à l'État et qui permettait de pouvoir occuper ces commerces. Puisqu'on ne veut pas que ces commerces deviennent aussi des logements Airbnb, oui. Puisque c'est aussi notre deuxième.
Ça aussi, c'est bataille. Une préoccupation. Alors, pendant toute cette période avec l'absence de touristes, Airbnb n'a pas fonctionné, mais c'est un problème qui va revenir d'actualité.
Dès que les frontières seront réouvertes et que le tourisme va reprendre, on sait très bien que tous les logements qui sont alloués en meublé aujourd'hui sur les plateformes classiques vont repartir sur Airbnb. Et à Paris, on a une particularité, c'est que vous aviez le droit de faire des logements Airbnb dans des locaux dits bureaux et commerces. Bon, ce qui est en train d'être interdit au niveau de la mairie de Paris, donc on avance petit à petit. Voilà, le lobbying qu'on a fait depuis 3-4 ans fonctionne et c'est très bien. Il faut savoir que dans un immeuble, les logements Airbnb, c'est les passagers clandestins de la copropriété. C'est l'enfer pour les voisins, puisque les gens sont là pour s'amuser.
J'ai lu des reportages, oui.
Il n'y a pas de respect de la vie en communauté d'un immeuble, puisque les gens sont là pour très peu de temps et sont là pour se détendre et profiter de leurs vacances. C'est des nuisances de bruit, c'est des nuisances de valises, de dégradation parfois des parties communes, de non-compréhension de la vie en communauté française. Donc voilà, pour nous, c'est quand il n'y a pas des problèmes, lors même des travaux pour des grands appartements qui pourraient être divisés en petites chambres individuelles, c'est en plus, toute illégalité.
Oui, plus un impact qui est le souci de beaucoup de gens, qui est que ça contribue à augmenter les loyers.
Alors, c'est des logements qui ne sont pas soumis à l'encadrement des loyers. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que les propriétaires préfèrent les mettre en Airbnb. C'est-à-dire qu'ils préfèrent louer plus cher à la nuitée que au prix des loyers encadrés conformément à la législation parisienne à long terme en logement nu. Et donc, évidemment, ça défavorise la création d'une collectivité homogène avec des gens qui vivent dans leur quartier, qui scolarisent leurs enfants, qui utilisent les commerces du quartier, etc. Mais ça, c'est un débat de fond avec la mairie de Paris qu'on a régulièrement et ils sont tout à fait... voilà. On est vraiment en phase sur ces sujets-là parce que, comme pour nous au quotidien, c'est une gestion très compliquée et source de contentieux. La mairie aussi lutte contre ça et voilà, petit pas, on arrive à évoluer. Mais on n'arrive pas quand même à la fin de l'encadrement des loyers qui est toujours le chef de bataille de la mairie de Paris.
Alors, une dernière question, il nous reste 3 minutes, Émilie Jousset. On a beaucoup parlé du télétravail, on dit qu'il va en rester quelque chose. Ça va avoir des conséquences sur la répartition entre bureaux et logements, en particulier dans une grande ville comme Paris.
On voit déjà effectivement les impacts du télétravail dans Paris, c'est-à-dire qu'on a déjà constaté des changements de locaux ou des réorganisations même de petites structures de façon à ce que voilà, les surfaces soient réduites parce que bah, les collaborateurs vont tourner. Et donc du coup, voilà, si on les, enfin, il faut savoir que dans une entreprise, les deux premiers postes de coût, c'est la masse salariale et le loyer. Donc si on peut pas agir sur l'un, on peut agir sur l'autre. Donc du coup, évidemment que c'est la première préoccupation des chefs d'entreprise et on le voit déjà, c'est un impact sur le marché des bureaux. Par contre, il faut savoir quand même qu'on part de très bas puisque depuis un an, le marché des bureaux a diminué de 50%. Donc on est déjà dans un marché locatif de bureaux en crise. Et en crise sérieuse. Donc, on va avoir évidemment des bailleurs qui vont se tourner vers le réaménagement de leurs locaux de bureaux, vers des appartements. Donc, voilà, ça va être aussi des nouveaux chantiers de réorganisation. Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué. Voilà, les dossiers administratifs sont assez lourds. Et donc, c'est vrai qu'on demande à nos gouvernants et à la mairie de Paris en particulier d'alléger ces dossiers si on pouvait les faire déjà. Un truc de fou, hein. Si on pouvait les faire de façon digitalisée, si on oubliait les 7 exemplaires papier, comme pour les permis de construire, ce serait tellement bien. Voilà, ce serait, c'est pas des demandes très compliquées, mais je pense que voilà, il faudrait faire un peu de simplification administrative sur ces sujets-là pour faire un peu d'encouragement.
Émilie Jousset, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous écouter. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter pour parler de l'avenir à Paris, en région parisienne. Du secteur du logement. Il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler, c'est dans 3 ans, mais la préparation des Jeux Olympiques aussi a un impact sur les questions de logement. Il y a la fiscalité. J'espère vraiment que vous serez dans peu de temps à nouveau notre invité. À très bientôt.
Je reviendrai avec plaisir.
Merci.
Un jour quand même.